RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Julien et bonjour à vous qui nous écoutez.
À la une, 23 minutes pour mettre fin à une carrière politique éphémère en Corée du Sud. La Cour constitutionnelle a validé cette nuit la destitution de Yoon Suk-yeol.
L'ancien président est accusé d'avoir violé la constitution en instaurant la loi martiale. On est à Séoul dès le début de ce journal. Les frappes israéliennes sur une ambulance de travailleurs humanitaires à Gaza, peut-être un crime de guerre, dit le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Le 23 mars dernier, 15 secouristes ont été tués puis retrouvés dans une fosse commune. Le jour de la libération, devenu une journée noire pour les bourses du monde entier. 24 heures après l'annonce de nouveaux droits de douane par Donald Trump, l'économie mondiale se réveille avec la gueule de bois. Dans ce journal, la colère et l'inquiétude des producteurs de fromage français. On parle aussi d'une autre conséquence de ces nouvelles taxes, cette fois sur l'environnement. Au sommaire également, on est au Sénégal, où l'on fête le 65e anniversaire de l'indépendance, aujourd'hui. Et puis c'est aussi aujourd'hui que sort le nouvel album de Youssou N'Dour. Ça s'appelle Éclairer le monde et c'est notre choix musical du jour sur RFI.
Il s'était exprimé à la télévision un soir de décembre, avait instauré la loi martiale avant de tenter d'empêcher les députés de se réunir. Après 4 mois de crise politique, le président sud-coréen a été définitivement destitué cette nuit.
Décision à l'unanimité de la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt accablant diffusé en direct à la télévision, les juges ont validé la suspension de Yoon Suk-yeol par l'Assemblée le 14 décembre dernier. Pour en parler, on vous retrouve, Camille Ruiz en direct de Séoul. Vous êtes près de la grande place de la capitale sud-coréenne. Camille, à l'annonce de la décision des juges, autour de vous, les manifestants pro-démocratie ont laissé éclater leur joie.
Oui, tout à fait. Ici, la foule suivait la retransmission en direct de la Cour constitutionnelle à travers plusieurs écrans géants. Et puis, vous l'imaginez, de grandes scènes d'allégresse quand la décision est tombée. Hein, des embrassades, des pleurs de joie, des danses improvisées. Il y avait même une fanfare et puis partout des applaudissements. On entendait des manifestants crier « Longue vie à la démocratie ». Après 4 mois d'incertitude, Yoon Suk-yeol est définitivement destitué. Et c'est, vous l'avez dit, une décision unanime. Pour rappel, Yoon Suk-yeol avait tenté d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier et avait envoyé l'armée au Parlement. Depuis, des manifestations se sont tenues tous les week-ends, donc le soulagement se lisait sur beaucoup de visages tout à l'heure. Les manifestants se sont dispersés maintenant, presque 3 heures après la décision. Certains pensent déjà à la prochaine élection qui devra se tenir dans les 2 mois. Le grand rival de Yoon Suk-yeol, Lee Jae-myung, leader du parti d'opposition démocrate par favori, vous vous en doutez, la période risque encore d'être tendue dans les prochaines semaines. L'élection est attendue dans 60 jours, fin mai, début juin.
Camille Ruiz en direct de Séoul pour RFI. Noter les réactions politiques. Ce matin, le parti de Yoon Suk-yeol accepte solennellement la décision. Quand le chef de l'opposition, lui, la salue, l'ancien président a détruit la constitution, a-t-il dit devant la presse.
Il se dit horrifié par ce qu'il qualifie de meurtre et parle de nouvelles inquiétudes sur la commission de crimes de guerre par l'armée israélienne. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est revenu hier sur la mort de 15 secouristes à Gaza.
Le 23 mars dernier, une frappe israélienne a visé une équipe de travailleurs humanitaires et quelques heures plus tard, alors qu'ils cherchaient leurs collègues disparus, d'autres secouristes ont été tués, 15 morts au total, dont les corps à Miras Wilhelm ont été retrouvés dans une fosse commune.
Nibel Farsakh est porte-parole du Croissant Rouge palestinien. Elle peine pourtant à trouver les mots pour décrire ce qui est arrivé à ses confrères.
Nos collègues ont été retrouvés dans une fosse commune. Cela a été difficile de récupérer leurs corps. Ils avaient des traces de tir et certains corps étaient déjà au stade de décomposition. Il semblerait qu'un bulldozer les ait poussés tous ensemble dans un trou et les ait recouverts de sable. C'est vraiment horrible. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi leurs derniers moments ont pu ressembler.
C'est la plus grande attaque contre le Croissant Rouge depuis le début de la guerre à Gaza. En nombre de tués, mais aussi en termes d'horreur atteinte selon l'organisation.
Nos collègues étaient au téléphone avec un de nos travailleurs paramédicaux que l'on n'a toujours pas retrouvé à cette heure-ci. Ils ont pu entendre des soldats israéliens discuter entre eux. Un de nos confrères comprend l'hébreu et a rapporté avoir entendu « Rassemble-les près du mur et attache-les tous ».
Depuis le déclenchement de la guerre, l'organisation dit avoir perdu 27 de ses membres. Amira Suilem Ramallah, RFI.
Et hier, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes à Gaza. 31 morts dans le bombardement d'une école abritant des personnes déplacées par la guerre, dit la défense civile palestinienne. Israël dit qu'elle abritait un poste de commandement du Hamas. Des frappes russes en Ukraine aussi cette nuit. Elles ont fait 4 morts et plus de 35 blessés dans la ville de Kharkiv dans l'est du pays. Des bombardements alors que l'envoyé spécial de Vladimir Poutine est à Washington. Kirill Dmitriev a rencontré des hauts responsables américains. Une dynamique positive dans nos relations, voilà ce qu'il a dit à la presse, même s'il y a encore des désaccords entre la Maison-Blanche et le Kremlin.
Des milliards de dollars d'actions volatilisées et Wall Street qui a connu sa pire journée depuis 5 ans. Au lendemain de leur annonce par Donald Trump, les nouveaux droits de douane américains secouent l'économie mondiale.
Les bourses du monde entier vacillent et la patronne du FMI parle de risques importants pour l'économie mondiale. Mais pas d'inquiétude pour Donald Trump, l'économie finira en très bonne forme, a-t-il dit hier. Ces nouvelles taxes doivent entrer en vigueur dès demain, 10% sur toutes les importations, sauf celles du Canada et du Mexique, avant des majorations mercredi pour les pays jugés hostiles. Parmi eux, l'Union européenne, plus 20% sur toutes les exportations aux États-Unis. Face à l'offensive, Bruxelles cherche la parade et prend son temps. Pas de riposte avant la fin du mois, disait hier Emmanuel Macron. Le président français recevait les principales filières économiques françaises, parmi elles, le secteur laitier. Alors concrètement, quel est l'impact de ces nouvelles taxe pour les producteurs de fromage français qui exportent aux États-Unis. Nicolas Fellman a rencontré un petit exploitant en région parisienne. Reportage.
Il préfère rester anonyme pour ne pas trop exposer son entreprise.
Il ne faudrait pas qu'on donne des idées de représailles, donc on est méfiant.
Les fromages sont ici produits à la ferme, mis en boîte et prêts à l'export.
Les fromages qui partent, ça va être des brie. On a aussi du camembert.
Un fromage sur 5 prend la direction des États-Unis.
Un camembert qui est vendu aux États-Unis, ça se vend entre 10 et 13 dollars. Donc vous ajoutez 20% à ce prix-là. Ça va faire monter le prix du camembert à peu près autour de 14-15 dollars. L'impact, c'est la perte de marché ou de la baisse de consommation. Donc ça touche l'emploi directement. Nous, il n'y a aucun problème. On peut continuer à expédier nos fromages. Mais la question, c'est qui sera capable de les consommer aux États-Unis.
Plutôt que d'attendre la réaction des consommateurs américains, l'entrepreneur s'active depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump pour trouver de nouveaux débouchés.
On passe beaucoup de temps aujourd'hui à travers la France et une partie de l'Europe. Là, récemment en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, ça permet d'aller chercher des nouveaux distributeurs qui sont prêts à valoriser les fromages d'exception français.
Mais pas question encore de tourner le dos au marché américain. Avec ou sans surtaxe, le producteur sera cet été, comme chaque année, au Salon gastronomique de New York pour y défendre ses fromages.
Reportage de Nicolas Fellman. Ces nouveaux droits de douane, une crise nationale, dit ce matin le Premier ministre japonais. Le Lesotho, frappé lui de 50% de taxes en plus, envoie une délégation à Washington. On l'a dit, il y a les répercussions économiques, là, à court terme, de ces droits de douane, mais il faut s'attendre à une autre conséquence, dont on ne peut pas encore totalement mesurer les effets, Simon Rosé, celle sur la transition énergétique.
À très court terme, les droits de douanes américains peuvent avoir un effet bénéfique pour le climat. Leurs conséquences sur le commerce mondial, moins d'échanges de marchandises, moins de camions sur les routes, moins de bateaux, égale moins d'émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. À plus long terme, l'effet sera en revanche bien plus nuancé, voire délétère. Parmi les principales concernées, on trouve en effet les industries lourdes de l'acier et de l'aluminium, très émettrices. Confrontées à une pression économique accrue, les experts craignent que les efforts nécessaires pour les décarboner passent désormais au second plan. Les mêmes experts s'accordent également à dire que ces taxes risquent d'entraver la transition vers une économie bas carbone. Elles augmentent en effet le coût des technologies vertes comme les panneaux solaires, les batteries électriques qui dépendent de métaux spécifiques. On pense également à l'automobile. Il sera plus difficile pour les constructeurs américains de faire la transition vers l'électrique, secteur essentiel à décarboner pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, mais par ailleurs peu soutenu, voire pas du tout, par l'administration Trump. La Chine pourrait en profiter et rediriger ses exportations vers des marchés plus ouverts, et en particulier l'Europe.
Simon Rosé, le nouveau conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, poursuit lui sa tournée sur le continent. Hier, il était en RDC, le premier pays de sa visite. Il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Ensemble, ils ont évoqué les questions sécuritaires, mais aussi un éventuel accord minier entre les deux pays. On vous raconte les détails de cet échange sur RFI.fr.
5h10 à Dakar et en temps universel, c'était il y a 65 ans, jour pour jour, le Sénégal obtenait son indépendance. indépendance.
Une date fêtée aujourd'hui dans le pays avec notamment le changement de nom de l'une des principales artères de la capitale. Le boulevard du Général de Gaulle est devenu le boulevard Mamadou Dia, l'un des pères de l'indépendance du Sénégal. Décision de Bassirou Diomaye Faye qui s'est exprimé hier à la télévision. Le président sénégalais a notamment renouvelé son engagement à redresser de façon transparente les finances publiques.
Le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée. L'état des finances publiques de notre pays, tel que révélé par l'audit effectué, nous impose de compter d'abord sur nous-mêmes pour redresser la situation. Nous en sommes bien capables et nous le réussirons avec la mobilisation de toutes et de tous. En effet, l'histoire des nations nous enseigne que le chemin du développement nécessite des sacrifices collectivement consentis afin que des lendemains meilleurs puissent advenir. J'appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d'engagement patriotique. Ensemble, forts de notre unité et de notre détermination, nous bâtirons le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons. Vive le Sénégal souverain, vive l'Afrique unie et debout, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.
Et ce vendredi qui marque l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal marque aussi, Arthur, la sortie du nouvel album de Youssou N'Dour.
Le 39e tout de même si l'on compte les albums live et les compilations. Celui-ci s'appelle Éclairer le monde, un disque dans lequel la star sénégalaise revisite le Mbalar, Olivier Roger.
Né au début des années 70, sur le socle de la musique njoup des Serrères, le Mbalar a toujours su intérioriser les influences étrangères. Youssou N'Dour utilise à merveille cette plasticité sur son nouvel album, dont la tonalité doit beaucoup à l'américain Michael League, producteur, arrangeur, guitariste, bassiste et même joueur de ukulélé. Éclairer le monde est un album très musical. Youssou N'Dour s'amuse à y mêler guitare, balafon, goni, kora au rythme des tamas et des sabars, les deux percussions métronomes qui forment la base du Mbalar. Toujours curieux, Youssou N'Dour a aussi ouvert sa porte à des musiciens venus d'horizons divers comme le batteur Mounir Zaki d'Atlanta ou le pianiste new-yorkais Frank Locrasto. Ils accompagnent les partenaires habituels du Dakarois comme son guitariste Tafa Gaï au jeu toujours très subtil. Éclairer le monde est une ode à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, à l'universalisme. C'est aussi souvent, comme avec Youssou N'Dour, une occasion de célébrer le mouridisme et son guide spirituel, cher Ahmed Bamba.
Éclairer le monde, le nouvel album de Youssou N'Dour qui sera notre choix musical. Aujourd'hui, ce sera à 7h52, temps universel.
Merci Arthur Ponchelet, on vous retrouve tout à l'heure. Vendredi 4 avril 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et le monde entier toujours sous le choc. Depuis mercredi et l'annonce par Donald Trump des tarifs douaniers généralisés, les bourses du monde entier ont fortement dévissé. Hier, les réactions et les promesses de riposte ont afflué. On fait le point avec Nathanaël Vitran dans le journal de 6h, temps universel. Dans Aujourd'hui l'économie, Stéphane Geneste tente de se mettre dans la tête de Donald Trump. Que souhaite vraiment obtenir le président américain alors qu'à court et moyen terme, ces décisions auront des effets désastreux, quasi certains, sur l'économie de son pays. Ces droits de douane et la riposte qu'ils vont susciter, on en parle aussi notamment sur le plan européen avec notre invité dans une heure, Shahin Vallée, ancien conseiller du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, passé aussi par le cabinet d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Il est aujourd'hui chercheur au Conseil allemand pour les affaires étrangères. Et puis, entre ces mesures commerciales et les incertitudes créées par le rapport rapprochement entre Trump et Poutine. Sur le dossier ukrainien, les présidents de la Commission et du Conseil européen sont en Ouzbékistan aujourd'hui pour un sommet entre l'UE et l'Asie centrale. Bruxelles se cherche de nouveaux alliés et c'est notre grand dossier dans le journal de 7h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi la Libye qui expulse une dizaine d'ONG accusées de favoriser l'installation de migrants dans le pays. À la une aussi sur le continent, les ministres des Affaires étrangères de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso reçus hier en Russie. L'info africaine revient dans moins de 20 minutes. Mais pour commencer ce matin, à la une en Asie, dans le sillage d'une autre annonce par Donald Trump et du choc planétaire qu'elle a provoqué ces deux derniers mois, le gel des financements de l'USAID, confirmé par Marco Rubio. Au mois de mars, la suppression de 83% des programmes soutenus par l'Agence américaine de développement, un cataclysme pour le secteur humanitaire dont on a beaucoup parlé. Des projets vitaux sont affectés et notamment des programmes de déminage au Laos. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour.
Car 50 ans après la guerre du Vietnam, le Laos continue de déterrer les bombes américaines. Où en est-on dans ces opérations ?
Oui, Julien, pour se rendre compte du travail titanesque à accomplir, quelques chiffres. D'abord, on estime que pendant la guerre du Vietnam, pour couper les voies de ravitaillement des guérillas communistes au nord du pays, l'aviation américaine a largué plus de 2 millions de tonnes d'explosifs et d'armes chimiques au Laos. Environ 30% de ces engins n'ont pas explosé et chaque année, ces bombes continuent donc de tuer ou de mutiler. On dénombre 20 000 morts depuis la fin de la guerre, 46 l'an dernier, dont 40% d'enfants. Depuis 1993, les États-Unis ont investi plus de 390 millions de dollars pour déminer les sols, mais environ un quart du pays reste contaminé par des restes d'explosifs, notamment des bombes à sous-munitions. Il faudra encore des décennies pour en venir à bout.
Et quel sera l'impact concret de l'arrêt du financement de l'USAID sur ces programmes ?
Le premier, évidemment, avec une baisse des comptes. Contamination des zones habitées ou cultivées, c'est une hausse probable du nombre de victimes. Autre conséquence déjà visible, c'est le licenciement des personnels formés au déminage. 4000 travailleurs qualifiés ont déjà perdu leur emploi faute de financement. Des experts qu'il sera très difficile de remplacer. Le Laos, et c'est l'un des pays les plus pauvres et le seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est. Sa population est essentiellement rurale. La suspension des contaminations entraînera le gel des restitutions des terres agricoles, ce qui affectera des dizaines de milliers de familles qui dépendent de l'agriculture. Autre impact, Julien, les programmes d'assistance aux personnes invalides risquent tout simplement de disparaître, plongeant des milliers de victimes d'accidents dans la misère et les privant d'aide médicale. Enfin, toutes les campagnes via les réseaux sociaux, la radio ou la presse écrite visant à sensibiliser la population sur les risques liés aux engins explosifs et les programmes dans les écoles secondaires et les centres d'éducation communautaires, eh bien, ne pourront plus subsister.
Beaucoup de Laotiens ont la certitude que les bombardements américains ont considérablement freiné le développement du pays. Les financements de l'agence USAID venaient en quelque sorte réparer une partie des dommages infligés. Comment les Laotiens vivent-ils aujourd'hui ce gel de financement ?
Alors, il y a un sentiment de colère, d'abandon et d'énormes gâchis aussi. Le pays espère continuer ses opérations de déminage grâce aux autres donateurs, comme le Japon, la Norvège ou la Nouvelle-Zélande, mais il sera très difficile, Julien, d'atteindre les 30 à 40 millions de dollars alloués chaque année par les États-Unis. Et alors que Washington se dérobe de ses responsabilités, eh bien la Chine pourrait combler ce vide et accroître son influence déjà très forte dans le pays.
À la une en Asie, Yelena Tomic, merci beaucoup. Et les conséquences du gel des financements de l'agence USAID, on en reparle d'ailleurs avec notre grand invité Afrique tout à l'heure, le directeur de l'ONG Oxfam pour la République démocratique du Congo en ligne de Goma avec Christophe Boisbouvier, c'est dans 30 minutes environ. 7h18 à Paris et avant la revue de presse internationale, tout à l'heure on ouvre déjà les journaux français. Deux jours donc après l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane dont personne n'est épargné. Le Monde boit la taxe, titre Libération qui dans son éditorial cite la thèse de l'historien britannique Arnold Toynbee, la première cause de disparition de civilisation historique est le suicide. et la guerre commerciale, écrit Libération, déclarée par Donald Trump en a tout l'air. Un avis partagé par l'historien de l'économie Kenneth Bertrams, interrogé par Libé. Trump, dit-il, s'apprête à mettre un coup d'arrêt à la politique commerciale libérale mise en œuvre par les États-Unis depuis 1945. Trump est donc en train de détruire l'ossature même d'un système qui a fondé la prospérité des États-Unis. Comment réagir alors face à Donald Trump? L'Europe cherche la riposte, écrit Le Figaro, qui note qu'avec une réponse annoncée pour la fin avril, l'Europe donne l'impression d'avoir un train de retard dans sa réaction. Les 27 prennent leur temps, écrit le journal, qui rentre dans les détails. La Commission cherche à mettre au point une réponse qui frappe les Américains là où ça fait mal, en essayant de ne pas nous faire mal nous-mêmes, explique un haut fonctionnaire européen, et le tout sans entrer dans une logique œil pour œil, dent pour dent, mais à force de vouloir être subtil et proportionné, prévient Le Quotidien, l'Europe risque d'avoir du mal à se faire entendre à la Maison Blanche. Et puis riposte ou surenchère, ce n'est pas ce que préconise l'opinion dans ses colonnes ce matin, le journal libéral qui préconise justement la carte libérale comme seule représaille face à l'isolationnisme américain. Il devient urgent de réorienter les flux commerciaux entre zones prêtes à échanger. Signons avec le Mercosur, accélérons l'accord de libre-échange avec l'Inde, renforçons le CETA, agissons en entité indépendante avec la Chine. La mondialisation est morte, vive la mondialisation, claironne l'opinion. Et est-ce un moyen d'échapper quelques heures à l'actualité, de ralentir un peu la cadence? C'est en tout cas une prolongation du retour en vogue du travail manuel qu'on observe en France depuis 5 ans et le premier confinement. Alors qu'aujourd'hui, 42% des Français entre 25 et 34 ans disent pratiquer des activités manuelles et créatives. C'est notamment le tricot qu'on voit revenir en force chez les jeunes. Loin du cliché des vieux pulls de grand-mère, en 2022, plus d'un tiers des moins de 35 quand disait tricoter, tutos sur les réseaux, ateliers collectifs, les occasions d'apprendre se multiplient. Illustration dans un café parisien où Lucie Bouteloup a pu assister à un cours gratuit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La laine et les aiguilles sont fournies, les débutants sont les bienvenus. Reportage.
Bonjour, merci d'être venu. Alors on commence, on prend son aiguille, une seule aiguille pour monter les mailles, son fil, et après il faut suivre les explications de la professeure.
Comme chaque mercredi, Perrine explique les rudiments du tricot chez Cortado, un café parisien du Marais. Ce soir, le cours affiche complet. Et pour Lali, 21 ans, pas question de louper l'événement.
J'ai vu un truc sur les réseaux. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux en être. Et du coup, j'ai activé les notifs parce que j'ai vu qu'il fallait réserver parce qu'il allait y avoir beaucoup de monde. 10 minutes avant le lancement de la billetterie, j'étais sur Insta, je faisais que actualiser. Voilà. On dirait un concert, mais c'est juste un atelier de tricotage. En vrai, c'est cool, quoi.
Ici, la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Surtout des filles, mais aussi quelques garçons, comme Hugo, qui assiste à son premier cours.
Je fais de la sérigraphie, je travaille dans la mode et je trouvais ça intéressant. J'ai toujours dit non quand ma grand-mère voulait m'apprendre et là, je me suis dit pourquoi pas. On parle avec d'autres gens qui sont très forts et moi très nul. Et on rencontre des gens, on boit un café ou un petit verre de vin et on fait du tricot. Je trouve que c'est le parfait mélange pour après le travail, quoi.
C'est pendant le confinement que le tricot a amorcé son grand retour. Une tendance très vite reprise par les influenceurs et qui depuis ne perd pas de vitesse. La preuve, aujourd'hui le hashtag knitting, tricot en anglais, totalise plus de 27 millions de publications sur Instagram. Pour les jeunes générations, tricoter, c'est donc devenu cool. De quoi réjouir Perrine, qui anime l'atelier.
C'était pas du tout à la mode à l'époque, moi, quand même, quand j'ai démarré. J'ai 60 ans, je disais pas à mes petits copains que je tricotais. Maintenant, c'est tendance. Je suis très contente qu'il y ait plein de gens qui veulent tricoter. Et je pense que c'est pas juste un phénomène comme ça qui va durer 2 mois. C'est aussi lié aux problèmes de consommation à outrance. Tous, ils viennent quand même avec l'idée, je pense, de se faire quelque chose un jour.
Et au cours de Perrine, tous les rêves sont permis. Même pour Alice, qui commence tout juste une nouvelle pièce.
Moi, c'est très basique, c'est un cache-cou pour l'instant. Et l'ultime, je crée mon pull et je vais à la Fashion Week.
En plus de la satisfaction de créer quelque chose de ses mains, le tricot a d'autres vertus. Selon une étude Opinionways de 2022, 75% des tricoteurs déclarent être plus heureux depuis qu'ils manient les aiguilles. C'est le cas de David, un tricoteur assidu en pleine réalisation d'un grand sac en maille, vert et blanc.
Quand je commence à les faire, je commence à oublier toutes mes autres préoccupations et je me suis tellement concentré sur le fait de faire chaque point correctement. J'entre dans un état de plénitude, on va dire.
À vos pelotes donc, vous avez encore 2 mois pour vous entraîner avant la journée mondiale du tricot le 8 juin prochain.
Lucie Bouteloup, notre reportage France à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et un œil comme chaque vendredi sur l'un de vos rendez-vous de la journée sur RFI. Pourquoi RFI dit ça? Avec vous Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Julien.
On parle d'Haïti cette semaine à travers l'entretien que l'écrivaine haïtienne Jean-Gilles Dominique a accordé à Littérature sans frontières.
Oui, plus largement c'est l'occasion de revenir sur l'usage très politique qui est fait de certains mots dans Pourquoi RFI dit ça? Avec Christophe Champin, responsable de la direction numérique de RFI.
Dans l'histoire, il est arrivé fréquemment dans la politique internationale ou national que le terme dictateur soit utilisé de façon abusive pour dénigrer un adversaire. Et inversement, il arrive aussi que des dictatures ne soient pas qualifiées comme telles par telle ou telle puissance parce que certains dictateurs sont leurs alliés. On peut donner 2 exemples. Du temps où l'ancien président irakien Saddam Hussein servait les intérêts des États-Unis contre l'Iran, il n'était pas qualifié de dictateur à Washington, alors qu'il était un dictateur. Et quand il est devenu un ennemi des États-Unis, d'un seul coup, il a été qualifié d'autocrate à abattre. Autre exemple, Vladimir Poutine, quand il parle du régime clairement dictatorial de Kim Jong-un en Corée du Nord, eh bien, il se garde bien de qualifier son allié dans la guerre en Ukraine de dictateur.
Juliette, si nos auditeurs ont des questions sur notre traitement de l'actualité, il y a une adresse pour vous écrire pourquoi@rfi.fr.
Parmi les questions que nous avons reçues cette semaine, un auditeur nous demande des précisions sur la CEDEAO et notamment pourquoi certains analystes, comme l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, estime que l'organisation ouest-africaine est inféodée à des puissances étrangères, et notamment à la France. C'est Laurent Corot qui lui répond.
La dénonciation de la CEDEAO par certains acteurs politiques comme Laurent Gbagbo, eh bien, elle fait clairement partie d'un jeu politique. Il s'agit en fait ici d'adopter un camp, donc là, prendre la position des pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et de critiquer le camp d'en face en essayant de fragiliser les positions adverses, les lignes qui sont tenues intellectuellement par les adversaires. On ne peut pas dire que c'est bien, c'est mal, c'est de la politique. Et il est clair que dans ce jeu politique, eh bien, accuser son adversaire d'être inféodé à la France ou à l'Occident, c'est, on va le reconnaître, utiliser un argument assez simple, très efficace finalement dans le moment actuel, même si c'est un argument qui n'est pas fondé.
Et puis nous parlerons cette semaine de la fatigue informationnelle qui touche les journalistes avec une question: comment parvenir à maintenir la juste distance avec l'actualité quand elle est trop anxiogène et trop omniprésente.
Et il y en a des choses à dire. Juliette Rangeval, merci beaucoup. Pourquoi RFI dit ça avec vous? C'est à 19h40, temps universel. Et bientôt 5h30 en temps universel sur la radio du monde avant le journal, un peu de musique avec le rappeur congolais Stelio et son titre Lassé, c'est dans la sélection du mois d'RFI.
Au début c'était cool, très smooth, amour instantané comme Paylib. Tu m'envoyais des news le soir, on s'envoyait des playlists. On s'envoyait tout court aussi, mais le duo est en péril. Aujourd'hui affaire classée, on a fini par se lasser.
À peine à moi et je suis déjà lassé. Deux mois puis trois et t'en as déjà assez. Tu me reproches des trucs dont tu rigolais. Passer du coup de foudre à des embrouilles du tonnerre. Quatre mois puis cinq, te voilà déjà lassé. Déjà six mois, j'avoue là j'en ai assez. J'étais fan de toi mais je veux plus te donner. Plus simple de remplacer que de rafistoler.
Bien loin l'époque des fous rires, là je crois qu'on est trop borné. Quand on se disait qu'on ne formerait qu'un, quand jouais du djembé sur ton boule jusqu'au morning. Dire que t'es gémeaux pour justifier ta folie. T'es pas passionné, t'es juste boring. Pour notre appart, vaut mieux faire chambre à part. On sait même plus simuler à part dans nos stories. Un mois plus tard, l'addition est déjà sale. Deux mois, on se fait que du sale. Je pensais que les bases étaient solides. En réalité, mouvants sont les sables. Je t'avoue, je calcule même plus sa beauté. On fait que saboter, c'est de la folie. On s'est jeté comme vulgaire colis. On était passionné, on a fini.
Il nous vient de RDC, il signe ce titre Lassé Stelio dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute, à tout de suite.
Passer du coup de foudre dans les embrouilles du tonnerre. Crazy, quatre mois puis cinq, te voilà déjà lassé. Déjà six mois, j'avoue là j'en ai assez.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, comment gérer ses émotions, colère, peur, tristesse, retrouver l'apaisement sans oublier son ressenti.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Elles se soutiennent, s'élèvent, se comprennent d'un regard. Loin des clichés de rivalité, l'amitié féminine est un lien puissant. Pourquoi ces relations sont-elles si essentielles? Comment traversent-elles le temps et les épreuves?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.